Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de la QTech avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, Isabelle Bordry. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir François.
Heureux de te retrouver, chère Isabelle, operating partner, fondatrice de Retency. L'operating partner, il est à côté. Et puis, rappelons-le, Isabelle, il y a quelques années, était à la direction de Yahoo France. On s'en souvient, c'était il y a quelques temps de cela. Yves Maître, donc, bonsoir Yves.
Bonsoir.
Le voilà, l'operating partner chez Jol Capital, il est là. Voilà. Tout va bien Yves?
Très bien.
On va beaucoup parler de voitures.
Oui,
et de Chine.
C'est vrai, ouais. Et de taxis.
Et de taxis, des sujets qui t'intéressent.
Particulièrement aujourd'hui d'ailleurs.
Exactement. Et Frédéric Simotel qui est là, salut Fred.
Salut
à tous. Journaliste à BFM Business. Et donc on va commencer par cette information intéressante, alors qui n'a pas été véritablement confirmée. C'est une rumeur, mais c'est un deal qui pourrait faire du bruit dans l'industrie automobile. Car selon Reuters, Ford et Geely discutent de collaborer en Europe. Le constructeur chinois étudierait la possibilité de produire des voitures dans des usines européennes de Ford. Les deux entreprises étudient aussi un partenariat technologique dans la conduite autonome. Ce deal entre Chinois et Américains serait inédit. Justine Vasson nous explique tout ça. Et puis bien sûr, on débat à bâton rompu sur ce sujet juste après.
Jim Farley, le patron de Ford, n'a jamais caché sa fascination pour la Chine. L'an passé, il s'y est rendu 67 fois. Pour lui, les Chinois sont clairement supérieurs, en particulier sur la technologie. Ford, dans ce domaine, a justement accumulé du retard. L'Américain cherche aussi à réduire sa structure de coûts dans les véhicules électriques. S'allier à un constructeur chinois a donc beaucoup de sens, estime un analyste. En début de semaine, la presse américaine prêtait à Ford des discussions avancées avec Xiaomi pour parler formellement démenti par l'Américain qui n'a pas fermé la porte à une alliance avec Geely. Nous avons des discussions avec de nombreuses entreprises, dit le constructeur. Parfois, elles aboutissent, parfois non. Selon Reuters, Ford et Geely discuteraient d'un partenariat technologique sur la conduite autonome, mais les discussions seraient encore plus avancées sur une alliance industrielle. Geely pourrait assembler des véhicules dans l'usine de l'Américain à Valence, un moyen pour lui de résoudre le problème de ses surcapacités en Europe et pour Geely d'échapper aux droits de douane imposés par Bruxelles.
Voilà, reportage signé Justine Vassogne. Et vous allez voir, en fait, cette information en entraîne d'autres. C'est ça qui est intéressant. On va parler aussi de BYD qui va ouvrir son usine en Europe, tout simplement pour éviter les droits de douane et puis surtout, pourquoi pas, pour bénéficier en fait des aides de l'État concernant les véhicules électriques. On va en parler. Mais Yves, Isabelle, je ne sais pas qui veut commencer là-dessus, ou Fred, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que on voit les alliances se forment avec les constructeurs chinois pour que justement ils puissent s'étendre en Europe. On le voit, on va parler de BYD dans un instant, mais ce deal là entre Ford et Geely, s'il se confirme, parce que rappelons-le encore, ce n'est pas totalement confirmé, ça serait quand même inédit, non? Qui commence? Isabelle? Allez, go.
Ce que je trouve intéressant, c'est la transformation du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est effectivement passé à l'ère de l'électrique et les voitures chinoises prennent une place très importante. Et quand on regarde les chiffres de vente l'année dernière sur le marché européen, on s'aperçoit qu'elles atteignent des chiffres qui sont aux alentours de 200 000 voitures. Et lorsqu'on produit 200 000 ou lorsqu'on vend 200 000 voitures par an, il commence à être intéressant de les construire sur la zone. Alors effectivement, il y a cet aspect qui est positif d'échapper aux droits de douane. Et pour les voitures, chinoises, c'est de l'ordre de 25 à 27%. Donc c'est assez significatif sur le marché. Donc ça peut avoir un impact sur le prix tout à fait intéressant pour les consommateurs. Ensuite, effectivement, il y a cet aspect production. Et aujourd'hui, les groupes thermiques ont du mal à vendre autant de voitures pour peut-être amortir. Et c'est le cas de Ford qui perd des parts de marché sur le marché américain. Donc oui, un Américain fait un deal avec un Chinois, mais ce qui est intéressant, c'est que l'usine est en France.
C'est ça. Et c'est un deal européen.
Et c'est
finalement
un deal européen.
Parce que je ne suis pas sûr que Trump aurait laissé passer ce type de deal sur le continent américain, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais d'abord... Non, je pense pas qu'il il le laissait passer un tel deal sur le marché américain. Bon, mais ça, c'est autre chose. N'est pas Trump qui veut. Heureusement, d'ailleurs. Bon, d'abord, Geely, il est déjà en Europe depuis longtemps. C'est lui qui possède Volvo, c'est lui qui possède Lotus, c'est lui qui possède Lynk & Co. Il possède aussi Proton, peut-être que j'en oublie. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a déjà une présence. Volvo, c'est quand même pas négligeable. Deuxièmement, il a fait un partenariat avec Renault il y a quelques années, et il y a une entité commune. Les moteurs thermiques de Renault sont co-fabriqués par Renault et Geely pour le monde entier.
Donc c'est qu'après, ces moteurs-là partent en Chine, c'est ça?
Alors, ils partent en Chine, mais ils partent aussi en Amérique du Sud, okay. Ils partent, etc. Donc, ça s'appelle Horse. C'était, en tout cas, dans la vision. Alors après, est-ce que le nouveau patron de Renault changera ça? Mais en tout cas, cette entité Horse, c'est une entité commune entre Geely et Renault. Et donc, Geely, c'est pas un inconnu. Mais comme tu l'as signalé, il y en a d'autres qui viennent, dont BYD. Okay. Alors, pourquoi? Ben oui, il y a les droits de douane. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que l'industrie européenne, alors Ford n'est pas un Européen en tant que tel, mais on se concentre sur l'industrie européenne, n'arrive pas à atteindre, même dans l'électrique, les prix des Chinois. Pourquoi? Parce que les usines sont extrêmement robotisées des deux côtés, peut-être un peu plus en Chine, mais surtout, la chaîne de valeur où les sous-traitants chinois ont des prix ou des coûts moindre que les sous-traitants européens.
Okay. Et puis il y a le coût de la main-d'œuvre aussi.
Il y a le coût de la main-d'œuvre. Okay. Et donc, les Chinois font venir des kits de pièces en Europe et ils assemblent en Europe. Donc la problématique, elle est bien sûr directement sur la production de véhicules européens, okay, puisque ça fait des concurrents en plus, mais elle est aussi et surtout sur toute la sous-traitance européenne qui se retrouve, elle, mise à risque par rapport au kit qui arrive de Chine. Donc c'est l'ensemble de l'industrie automobile qui est quand même sous pression assez massive. Et les droits de douane, mais on pourra en parler après des droits de douane, on le voit bien, ça reste quand même, j'allais dire, une barrière un petit peu de sable. On pourra en parler parce que si on a un peu de temps, je vous raconterai une anecdote que j'ai eue avec un constructeur automobile chinois sur les droits de douane européennes. C'est édifiant, hein, la manière dont ils peuvent franchir. Alors, ils le font pas et je pourrais en parler. Mais on est un peu ridicule quand même avec nos histoires de droits de douane, hein.
Bah, raconte-nous, parce que là, tu nous tiens en haleine. On est obligé d'avoir le fin mot de ton histoire.
À partir du moment, on était en Chine, on avait une discussion, parce que c'était avant que les droits de douane ne tombent. Et donc, comment faire avec ces droits de douane? Et donc, il y avait une table avec un certain nombre d'ingénieurs. Et puis, à un moment donné, se pose la question. Je dis, mais à ce moment-là, on n'a qu'à faire comme dans le monde des télécoms. Souvenez-vous, à un moment donné, on achetait un smartphone 1 euro et puis on payait
l'abonnement.
L'abonnement. Okay. Bon. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne prendrait pas le même type de business? C'est-à-dire, j'achète la voiture 1 euro, avec les droits de douane, ça fait 1,25 euro, mais littéralement. Hein, c'est... Et puis, ben, on achète le software pour faire marcher la voiture, sur des voitures électriques. Et à ce moment-là, je vais acheter le software 20 000 euros. Et donc, j'ai acheté la voiture 1,50 euro ou 1,25 euro, plus 20 000 euros de software, ça fait 21 000 euros, enfin, dans 20 000, 1,25 euro. Et je télécharge mon software, et comme mon software, les serveurs peuvent être en Europe, hop, j'ai plus de droits de douane.
Ça va être de l'abus de droit, quand même.
Oui.
Oui, non, mais.
Je pense que là, je sais pas si c'est le fisc ou
le législateur.
Les douanes.
Les douanes vont, à mon avis, pas laisser passer ça longtemps, non?
Évidemment, ce serait pas 1,25€, mais on peut envisager à coût, c'est-à-dire les importer à coût, ok? Et là, ça pose un problème. Alors, pour être tout à fait honnête, dans cette réunion, ça s'est terminé par non, on va pas aller là, parce que justement, pour la raison que tu mentionnes, on va tout exploser et c'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit que le business model de l'automobile peut changer, que c'est révolutionnaire et qu'il y a d'autres manières de penser. Donc là, il reste dans les cordes. Mais il peut y avoir d'autres manières de penser et je prétendrai pas que ça n'arrive jamais.
Alors, on va revenir sur BYD, bien évidemment, qui arrive en Europe. Fred, quel est ton point de vue là-dessus?
Moi, je pense que très concrètement, pour moi, Ford, ce qui est amusant, c'est que c'est un retour de l'histoire, mais à l'envers. C'est avant, on allait faire des partenariats avec les Chinois et puis les Chinois ensuite, nous piquer un peu la technologie pour la répandre dans leurs usines. Faut se rappeler que le plan chinois voiture électrique, c'était 2015 et il s'était donné 10 ans pour avoir autonome en voiture électrique. Ça y est, c'est fait. Et puis avant, ils l'avaient fait sur, enfin, et les moteurs thermiques, ils étaient plutôt passer par des partenariats. On se souvient des publicités pour c'était les Peugeot révolutionnaires là où c'est Citroën où il y avait cette publicité, c'est révolutionnaire sur la muraille de Chine et tout ça. Moi je pense que là Ford ils le font en Europe parce que oui, comme tu l'as dit, pour pas le faire aux États-Unis.
Terrain neutre, on va dire.
Mais ils le font, ils vont avoir des compétences technologiques et tout ça, puis ça on va tranquillement les rapatrier un peu aux États-Unis. Je pense que là il va y avoir un échange, à mon avis, de sous le manteau ou pas, enfin bon, je pense qu'il va y avoir cet échange-là. Il y a quand même l'électrification, ça coûte cher, Ford s'en rend compte évidemment, et là ils ont quand même tout d'un coup un partenaire qui vient leur apporter tout ça. On a des usines qu'il faut quand même faire tourner, Ford a quand même des usines notamment en France, il faut les faire tourner, mais là avec ce partenariat, ça apporte, et Geely voit aussi son intérêt. Geely voit aussi une concurrence chinoise, je crois que c'est toi, c'est toi Yves qui avait dit une fois, vous savez, BYD, ils arrivent en Chine, c'est pas le porte-drapeau des voitures chinoises, BYD, ils arrivent en Chine, ils arrivent en Europe, c'est pas en tant que porte-drapeau des voitures chinoises, BYD, ils arrivent en Europe pour tuer tout le monde, y compris les acteurs chinois. Donc Geely se dit compliqué d'aller en frontal tout seul face à BYD, autant trouver des partenariats. C'est sans doute un moyen qu'a trouvé Geely aussi pour arriver là. Donc voilà, moi je vois ça. On sait que la valeur s'est déplacée aujourd'hui. La valeur avant c'était le moteur, la mécanique, etc. Aujourd'hui la valeur c'est les batteries et le soft. Et là voilà, on a cet accord là. Et bon, quelque part tant mieux que ça se passe en France. Puis on pourra parler de
juste une petite chose. C'est Valence Valencia. Hein, c'est en Espagne. Hein. C'est pas l'usine.
Il n'y a pas d'usine à Valence, c'est en Europe.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement l'usine qui est en train de se construire avec BYD, cette fois-ci en Hongrie.
Oui.
Donc en fait, ils rentrent aussi de manière très forte sur le territoire européen, parce qu'aujourd'hui, ils sentent que le marché est là, que le marché est ouvert et que leur vente progresse, à la différence d'ailleurs de Tesla. Donc il y a une vraie transformation du marché électrique contre thermique, et une vraie concurrence parmi les constructeurs électriques.
On va revenir à BYD dans un instant, parce que je voulais qu'on arrive à clore le sujet Ford et Geely, parce que c'est intéressant, mais j'ai l'impression que le patron de Ford, c'est un petit rigolo, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, il avait réagi en disant « Je suis monté dans une Xiaomi, et c'est une voiture que j'ai adorée. Voilà. J'adore cette voiture. » Le patron de Ford, hein.
Je sais pas si tu as pas.
Attends, je termine juste l'histoire parce que elle a une conclusion. Il y a deux jours, il y a eu des rumeurs persistantes d'association entre Ford et Xiaomi pour qu'ils bossent ensemble pour créer des voitures. Ça a été démenti instantanément, à la fois par Ford et par Xiaomi. Mais je trouve intéressant ce move, on va dire, du patron de Ford qui, voilà, de manière complètement décomplexée, n'hésite pas à dire. La Xiaomi SU7, c'est la SU7, est une voiture incroyable. Je rêve de faire la voiture aussi bien chez Ford. Et cette petite rumeur qui est tombée il y a deux jours concernant cet éventuel rapprochement qui a été, lui, démenti instantanément entre Xiaomi et Ford. Voilà, je voulais refermer la parenthèse.
Je vais juste réagir sur le fait que tu dises le patron de Ford est un petit rigolo. C'est pas parce qu'on n'a pas la langue de bois qu'on est un petit rigolo. Ils disent ce que tout le monde sait. Donc, nous, on veut pas le dire parce qu'il y a d'autres soucis sociétaux ou sociaux ou de syndicats. Donc, et je le comprends, hein, c'est pas, voilà. Donc, on n'ose pas le dire. Lui, il dit tout fort ce que tout le monde sait.
Oui, mais ça serait quand même amusant d'entendre le patron de Renault qui dit, ma voiture préférée, c'est la 3008. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il y a quelque chose qui va pas. Là, il est complètement décomplexé. Il le dit, en fait. C'est étonnant.
Juste un mot pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire, notamment de Ford, depuis Henry Ford.
Oui.
Tous les patrons, alors il y a eu le petit-fils et tout ça. Je dis pas que c'était des petits rigolos, mais ils ont toujours une personnalité. Si tu regardes tout, il y a un film qui retrace d'ailleurs la bataille entre Ford et Ferrari sur Le Mans et tout ça. À l'époque, c'est le petit-fils qui est à la tête de Ford. Et lui aussi, il a un côté... Ils ont tous une originalité et ils ont toujours su... Ils sont vraiment forts parce qu'ils ont toujours su choisir des patrons, même là aujourd'hui.
Oui, qui ont quelque chose, une étincelle,
Un petit truc en plus.
C'est bien.
Si tu regardes toute cette histoire de Henry Ford, c'est vrai qu'il y a un truc dans. Je sais pas.
C'est pas que des techniciens de l'automobile, c'est des gens qui ont une.
Des gens passionnés déjà pour la chose. Alors ça, c'est l'un de nos premiers critères. Et derrière, ils. ah, ils ont toujours un truc qui fait que ben voilà, ils ont, Ford est toujours là, Ford continue toujours à nous étonner. Ford a sorti son Ram là, son pick-up américain, les Américains ne jurent que par ça. Enfin voilà, ils ont et l'électrique pareil.
Mais la voiture fait quand même partie de la culture américaine.
En plus.
Donc cette prise de position est quand même très forte.
Ouais, c'est assez intéressant. Ah ouais.
Je voulais faire
aurait pu dire une Tesla, non, même pas. Ouais. C'est une Xiaomi.
Je voulais faire un mauvais jeu de mots comme à mon habitude.
Aïe.
On le fait, ah ben on le tente maintenant.
Non mais Yves, c'est toujours bon avec toi, alors on en profite.
Ce que je veux dire, c'est que vous savez que dans les voitures, les systèmes de communication, c'est du multiplexé. Hein,
Oui.
Donc c'est assez normal qu'un patron décomplexé se mette avec des Chinois pour acheter des voitures multiplexées.
Voilà. Oh, bravo.
Ça, c'est un jeu de
blague
mots.
Blague d'ingénieur.
Voilà.
C'est une blague d'ingénieur.
Je pense qu'il y a 1,5% de nos auditeurs qui ont compris la blague, mais ce n'est pas grave.
Ça me fait beaucoup rire.
C'est comme ça. J'aimerais qu'on enchaîne, parce que le temps tourne et il faut qu'on évoque Waymo, qui est un gros morceau. L'arrivée en Europe de BYD, avec donc des usines, une usine qui va ouvrir, et ils projettent d'en ouvrir d'autres en plus. Hein. C'est véritablement, BYD veut étendre sa toile en Europe. Yves, comment ça se passe là? Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, mais quand on dit on va construire une voiture en Europe, en fait, on l'assemble. C'est pour des raisons de techniques qui font ça. C'est pour des raisons justement de droits de douane. On évoquait tout à l'heure le fait peut-être de bénéficier des aides de l'État.
Parce que BYD est un constructeur très intégré.
Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font en fait en Europe?
Est-ce qu'ils arrivent avec tout?
Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Typiquement, ils arrivent avec le châssis. Ils font simplement que assembler un peu le véhicule. Comment ça marche?
Alors, Je pense que dans le cas présent, on est typiquement dans l'assemblage et la législation fait que, à ma connaissance, 40% de la valeur ajoutée doivent être faites en Europe pour ne pas tomber sous le coup des 28 ou 27%.
Voilà, il ne faut pas maquiller, en fait, la fabrication d'un véhicule.
Donc il faut faire. On ne peut pas arriver avec une voiture et puis juste dire j'assemble.
Je mets des ampoules.
Voilà, je mets les ampoules et puis c'est terminé.
C'est bon.
Donc je crois que c'est 40% de mémoire.
C'est intéressant, je trouve ça.
Ça peut varier. Et donc, en effet, ils importent un certain nombre de choses pour. Voilà. Mais l'objectif à terme, je pense que ça va être aussi d'avoir des bureaux de recherche, des bureaux d'études et de la recherche et de la conception d'un certain nombre de choses en Europe, parce que on sait bien que il faut aussi, quand on s'implante quelque part, il faut aussi créer de l'emploi, il faut aussi bénéficier de toute la compétence locale, et on peut pas arriver en conquérant et dire c'est moins que v'là. Et bon, dernier point quand même que je tiens à mentionner, la Chine c'est 1,3 milliard de personnes. La Chine est en train de revenir dans le monde de la technologie.
Avec une démographie qui est en train de chuter. Hein.
Oui.
Non mais d'accord. Enfin bon, il reste 1,3 million, on dit 60 millions,
ils resteront
dans un rapport.
Même si ça va. Ils ont une légère avance,
la main d'œuvre augmente un petit peu.
Ouais.
La main d'œuvre augmente un petit peu. Donc,
le coût de la main d'œuvre.
Le coût de la main d'œuvre augmente.
Et beaucoup d'ingénieurs chinois, beaucoup de Chinois travaillent, sont surdiplômés par rapport au travail qu'ils font.
Juste ce que je veux dire, c'est que c'est pas anormal qu'ils fabriquent leurs voitures sur un pays d'un milliard, 20 fois plus grande que la France. Oui, ils ont le droit aussi de fabriquer leurs voitures. Mais je pense qu'il faut qu'on sache et qu'on le dise. C'est pas les voitures européennes qui sont visées. Les Chinois, les Européens, on n'est pas des ennemis pour les Chinois. Par contre, les Coréens et les Japonais, s'ils pouvaient mettre à plat ou prendre des parts de marché aux Coréens ou aux Japonais, je pense qu'ils seraient assez contents.
Non, mais Yves, ça va faire un carnage, cette histoire-là.
Ça va faire un carnage.
On est d'accord.
Oui.
Quand ils vont arriver avec leur Dolphin, là, qui va être à moins de 20 000 euros, pour peu qu'elle soit éligible, en plus, à l'aide de l'État, parce que finalement, elle peut l'être, non? Parce que j'imagine que tout a été calculé pour qu'elle puisse être éligible à cette aide-là. Je crois qu'il faut que la batterie soit fabriquée en Europe, je crois, pour qu'on puisse avoir cette aide de l'État de 3 000 et quelques euros. Donc on va tomber à des véhicules qui seront bien finis à 15 000 euros. Ça va être un carnage, parce que Renault ne pourra pas s'aligner, Peugeot encore moins. Ça va être compliqué.
Tous les partenariats.
Oui. Bien sûr, mais ça règle pas tous les problèmes, les partenariats.
Aujourd'hui, le groupe Volkswagen, c'est quand même 3,5 millions de voitures par an vendues sur le marché européen. BYD, c'est pas encore 200 000. Donc, il y a quand même du temps. Les groupes sont en train aujourd'hui de réagir, les groupes européens, et de se poser une...
Mais en fait, c'est un peu le cheval de Troie, là, qui arrive, je pense.
Donc, c'est le cheval de Troie. Effectivement, ça permet d'optimiser des investissements, soit des Américains en Europe, et donc là, en Espagne, soit en Hongrie, faire travailler effectivement une main-d'œuvre qui, en Hongrie, est beaucoup moins cher, peut-être qu'en Espagne et sûrement qu'en France. Donc, on voit que certains pays européens en profitent. Mmh. Maintenant, la messe n'est pas dite, la route est longue, et je pense que les Européens, et notamment le groupe Volkswagen, et peut-être aussi Stellantis, arriveront d'une manière ou d'une autre à réagir.
Espérons-le.
Mais je pense que justement, la concurrence du BYD, c'est pas les constructeurs européens. Je pense que si les constructeurs européens restent dans la même stratégie, c'est clair, le match est joué. Maintenant, c'est peut-être aux constructeurs européens de réagir, hein, de rejouer. On comprend aujourd'hui, on l'a dit, la chaîne de valeur s'est déplacée. Moi, je pense ça va terminer le lien émotionnel avec sa voiture. C'est ce que vont créer les Chinois. Donc, il faut que les Européens se disent, c'est fini, la voiture que j'aime bien, la forme, etc.
Je suis pas d'accord. Mais bon, on n'a pas le temps.
Ça va être du tech first.
Tu peux avoir de très belles voitures chinoises qui provoquent le petit truc. Hein.
Elles sont très belles.
Mais c'est pas grave.
Et je pense qu'il faut davantage coopérer sur ce que j'appelle l'invisible que sur le visible pour les acteurs européens. Il faut jouer beaucoup plus sur la plateforme logicielle. Je pense que là, il faut vraiment créer un Airbus de l'auto, mais sur le logiciel auto. Mais là, il faut tous s'y mettre parce que sinon, ils vont être balayés. Et moi, je pense que c'est là où les Européens doivent vraiment réagir ensemble. Et là, c'est des signaux faibles. Hein, GD Ford, BYD. Mais si on ne bouge pas et si on continue dans notre stratégie, on n'y arrivera pas, surtout conduite autonome arrive derrière.
Et bien voilà, belle transition Fred, j'ai eu chaud. Ouais. Waymo, 16 milliards, c'est impressionnant hein, quand même, hein. Levée de 16 milliards pour accélérer dans le véhicule autonome, sans mauvais jeu de mots, parce que je sais que Yves me guette là, et l'idée c'est aussi de généraliser en fait cette perfection technologique que Waymo est en train de mettre avec ses véhicules autonomes qui marchent bien. Je t'ai vu faire la grimace, tu m'as expliqué pourquoi, mais l'idée avec cet argent, c'est de multiplier les points où il y a des Waymo et l'arrivée en Europe, l'Angleterre, on parle du Luxembourg, la France, on ne sait pas, hein, on est un petit peu à la ramasse là-dessus.
Le Japon aussi.
Qui commence peut-être Isabelle Waymo, levée monstrueuse.
Oui, levée monstrueuse, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ça marque une étape en fait. Il passe de l'étape proof of control, c'est-à-dire du test. Alors depuis 2018, il y a des voitures qui tournent à San Francisco, d'abord c'était à Phoenix, ensuite ils ont gagné San Francisco, etc.
Mais ça reste encore du prototype
donc,
un peu, c'est ça.
Donc là, ils vont essayer de passer à l'échelle. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment intéressant.
Et c'est intéressant.
Donc en fait, 6 ans ou 7 ans après la première mise en circulation de cette voiture, tout d'un coup, effectivement, ils se rendent compte qu'il y a possibilité d'industrialiser. Ce qui m'a beaucoup marqué en regardant un peu les économiques, en tous les cas les chiffres sur cette société, c'est le coût de la maintenance. Et en fait, une voiture, maintenir en fait en état opérationnel, vérifier que les radars, les lidars sont en bon fonctionnement, il y a même des hommes qui supervisent le parc en permanence, en fait, ça coûte cher. Et une voiture coûte aujourd'hui, dans l'état de l'art actuel, à peu près 500 000 euros par an. Donc, en fait, ça coûte extrêmement cher de faire tourner les voitures aujourd'hui. Donc, les 16 milliards, c'est quoi? C'est effectivement la capacité d'améliorer la chaîne de production pour que la voiture tombe moins en panne, investir dans les infrastructures logistiques qui sont absolument nécessaires et s'assurer effectivement que le logiciel tombe moins en panne et soit plus efficace et puisse être déployé dans des environnements différents de ceux dans lesquels ils sont déployés aujourd'hui. Donc, c'est un vrai challenge.
Yves, quand je disais tout à l'heure que c'était une vraie réussite technologique, je t'ai vu tiquer.
Oui, j'ai tiqué parce que les 15 milliards, la techno, elle marche, elle est faite, et elle a besoin de s'améliorer comme toute technologie, et elle s'améliore comme technologie, mais les 15 milliards, c'est pas pour ça. C'est exactement pour ce que tu disais, c'est pour passer à l'échelle et déployer. Et alors ça...
Parce que ça coûte cher une voiture Waymo. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est 500 000 euros par an.
Ça coûte beaucoup plus cher qu'une Tesla,
par exemple. Bien sûr, ça coûte cher.
C'est un entretien.
Mais ce que je veux dire, c'est que la technologie, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que ils ont déjà passé l'étape de la technologie.
C'est 200 000 dollars une Waymo.
Ils ont déjà passé l'étape.
Et avec la maintenance qui est très cher.
Oui. Mais à l'achat, tu investis 200 000 dollars par véhicule avant qu'il fonctionne. En fait, tu vois, avec tous les capteurs, les lidars et tout.
Et après.
Non mais c'est beaucoup d'argent, mais ça, ça va tomber. Ça va tomber. Moi, c'est pas ça qui me fait souci. Ça, j'allais dire malheureusement, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, la bataille de la voiture autonome. Je crains que, comme tu le disais, il faudrait qu'on fasse l'Airbus parce que sinon on est largué. Et on le voit bien avec Waymo. Donc les 15 milliards, ils vont pas servir à ça parce que ça marche. Pas chez nous, mais les Américains, les Chinois savent le faire marcher. Donc si on est largué là-dessus, il y a encore un truc qu'on peut préserver, c'est le fait de faire fonctionner ces voitures dans le monde réel. Alors je vais prendre un exemple.
C'est bien 200 000 dollars.
Si on prend les trains, la SNCF, les trains, il y a deux choses, il y a la SNCF et RTE. RTE, ils font les rails, ils s'occupent de l'infrastructure, l'équivalent de la voiture Waymo. Et puis il y a la SNCF qui fait fonctionner ces voitures sur des rails. Waymo, avec ses 15 milliards, ils vont apprendre, ils vont scaler, bien sûr, hein, c'est-à-dire ils vont aller dans plein de villes, et en Europe, Londres étant leur première ville en Europe, mais surtout, ils vont apprendre à opérer ces voitures. Ça veut dire quoi? Comme tu le disais, les réparer, les mettre dans des entrepôts quand ils n'en ont pas besoin, les nettoyer, s'assurer
les que recharger, les pneus sont bien gonflés, enfin, toute une logistique.
Les superviser, parce que quelqu'un peut faire une bêtise à l'intérieur du véhicule, enfin, etc., etc. Ce travail-là d'opérer une voiture, c'est un nouveau métier.
Ils ont déjà un petit peu développé quand même.
Non, pas tellement, parce qu'ils sont dans le prototype. Là, il faut opérer commercialement. Mais
je crois qu'ils ont 1000 véhicules, alors, tu vois, rien qu'à San Francisco.
Ce que je veux dire, 2500, c'est souci.
2500
dans tout le parc.
C'est bien, mais c'est du pré-commercial.
Oui, bien sûr.
On n'est plus plus de 2500. Et ce qui me fait souci.
On industrialise.
Ce qui me fait souci, et là, moi, je tire la sonnette d'alarme, c'est que, OK, très bien, tirons une croix sur l'Airbus européen. Pour le moment, on en est loin, loin, loin. Mais l'opération. Comme on opère des autobus, comme la RATP opère des métros,
faire,
comme la SNCF opère des trains. Mais si on ne le fait pas tout de suite, et qu'on le laisse à Waymo avec ses 15 milliards,
on est cuit.
On a non seulement perdu la technologie, mais on va avoir perdu la guerre totale, c'est-à-dire et de la technologie et des opérations. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, il n'y a toujours pas l'autorisation pré-commercial, je ne parle même pas du commercial, pré-commercial pour faire marcher des véhicules, donc on ne parle même pas des véhicules, mais même les opérations. Donc on est dans une situation où non seulement on ne saura pas faire des trains et des rails, mais en plus, on ne saura pas les faire marcher. Je veux dire, mais on est complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas ce que foutent nos politiques, réellement.
C'est juste une chose, parce que ce que tu dis est très intéressant. Quand on est rentré de Las Vegas, dans la file d'attente pour monter dans l'avion, on a rencontré quelqu'un qui nous connaissait, Fred et moi. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
Oui, très bien.
Et c'était alors, je ne me souviens plus de quelle boîte il s'agissait. Mais ce garçon m'a expliqué qu'il travaillait pour Waymo et qu'il y avait un sous-traitant français qui bossait justement dans l'entretien de ces véhicules et dans toute la logistique qu'il y avait. Et c'était un sous-traitant français qui était aux États-Unis et qui étudiait le fait d'arriver en Europe aussi. Donc, c'est intéressant ce que tu dis.
On va être sous-traitant des opérations, alors qu'on pourrait être beaucoup plus ambitieux.
Cela dit, les infrastructures nécessaires sont très lié à la voiture, c'est-à-dire que la maintenance de la voiture est liée à la voiture.
Oui, mais
la maintenance du
software. Mais il faut des data centers quand même, il faut la puissance de calcul à côté, il faut des data centers.
Oui, bien sûr. Mais donc c'est à la différence de RTE où sur des rails on peut faire passer plusieurs trains opérés par différentes marques. Là, on est quand même très lié à
aujourd'hui.
Absolument.
Aujourd'hui.
Mais alors attendez. Bon, parce que là, je vais avoir Fabien dans l'oreillette qui va commencer à me crier dessus.
On parle trop fort ou on est trop long, les deux?
À ton avis.
Les deux.
Le sujet nous passionne.
Parler fort, c'est bien. Ça prouve que c'est... on a des choses à dire. Parler trop long à la radio, c'est pas terrible. Mais ce qui est bien, c'est qu'on revient. Petite pause et c'est reparti. On terminera parce que je sais que Fred voulait...
J'ai rien dit sur ce sujet-là.
T'as rien dit tout à l'heure.
C'est depuis sur Waymo.
Il dit qu'il a rien dit, mais c'est pas possible. Rembobinez-moi la cassette.
Je vous ai laissé en conduite autonome.
Non, mais on va parler, on va avoir l'analyse de Waymo, de Frédéric. Et puis après, on enchaînera quand même sur notamment la perquisition chez X-France. C'est intéressant, ça. Hein, le réseau social américain. Vraiment taper là au niveau local en France. On verra pourquoi. Vous restez avec nous, petite pause, et on revient tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.